Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode pilote de Contournement Audio. Moi, c'est Alexis et je fais partie de l'équipe Contournement. C'est un ensemble de formations et de projets autour des technologies no-code ainsi qu'une communauté. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est que le no-code. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est le sujet de cet épisode pilote. Alors, je vais vous laisser avec Julie et moi pour une discussion d'une vingtaine de minutes qui va permettre d'introduire un peu le sujet. Allez, c'est parti!
Salut, ça tourne.
Ça tourne, c'est parti.
Très bien.
Ça va, Julie?
Ben, ça va bien et toi?
Ça va très bien.
Tu me dis ce qu'on fait là aujourd'hui?
Et ben, on va faire notre premier podcast de tous les temps.
Oh, ça c'est
Ça,
beau
c'est le
ça.
tout premier, hein. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est le tout premier. Première fois qu'on en parle. Enfin, ça fait longtemps qu'on
Depuis
en
qu'on en
parle, puis
parle,
voilà,
je
c'est
sais.
ça, depuis tout le temps qu'on en parle, on va en faire un. Et on va parler de no-code, qui est ma nouvelle passion du moment. J'essaie de te contaminer avec cette passion.
Très bien, essaye de me contaminer, je t'en prie. Ça existe depuis quand? Ça fait longtemps?
Le no-code, c'est un mouvement que nous on suit depuis un moment. Quand je dis nous, c'est avec l'équipe de contournement. On parlera de ce projet un peu plus tard. Une dizaine d'années, je dirais. On peut remonter ça plus loin en fait, parce que donc, quand on parle de no-code, voilà, c'est comment faire des sites web, des applis sans coder, entre autres choses. On est dans le contexte du numérique, voilà, faire des choses sans écrire une ligne de code. Malgré qu'on soit développeur, mais ça c'est. Voilà, on trouve d'autres moyens. Dans les années 90, il y avait déjà Dreamweaver qui existait en mode interface graphique. Tu fais des sites, tu dessines. Voilà, et puis ça te génère du code. Donc voilà, c'est pas. À l'époque, c'est pas encore des choses qui sont hébergées, des outils en ligne. Mais ça existait déjà. Il y avait FrontPage de Microsoft. Et puis après, il y a commencé à avoir des website builders. Genre, chez des hébergeurs américains, genre GeoCities, par exemple, ils avaient un website builder.
Ça veut dire quoi, website builder?
Bah, l'idée, c'est que tu construis ton site sans coder, quoi.
C'est vers un
Enfin,
CMS en fait.
alors c'était pas, à l'époque, on parlait pas de CMS, parce que c'était pas forcément pour gérer du contenu. C'était juste pour dessiner ta page d'accueil, quoi. Admettons, il y avait qu'une seule page à l'époque, hein, tu n'avais pas 150 pages sur ton site. Tu avais ta page d'accueil avec des gifs qui tournaient, un fond avec des étoiles, enfin, c'était toujours un peu cheap. Des boutons, voilà, l'idée c'était que tu plaçais tes éléments et puis ça te faisait ton site, quoi. Donc t'écrivais pas de code, pas d'HTML, pas de CSS.
Trop bien. C'est quoi la différence avec le low code? Parce que j'ai lu des trucs là-dessus aussi.
Alors le low code c'est différence de no code, donc no code, il n'y a pas de code du tout. Le low code c'est plutôt un mouvement en fait qui est plus récent finalement que, enfin bon, les mots après ils ont un peu des historiques différents, mais le low code c'est des plateformes un peu comme Salesforce par exemple, c'est des plateformes très avancées ou SAP, des choses comme ça où tu auras toute une partie graphique qui va abstraire en fait les tâches, enfin, tu vas pouvoir organiser, faire plein de choses sans coder, mais tu vas pouvoir aussi coder, quoi. Tu vas pouvoir rajouter du code, faire en sorte que ces plateformes, par exemple Salesforce, c'est un outil qui est générique, de CRM, enfin de gestion des processus d'une entreprise, pour faire en sorte que ça soit vraiment adapté à ton entreprise, tu vas payer des intégrateurs qui vont écrire un petit peu de code dans le contexte de Salesforce pour que ça t'adapte vraiment à tes besoins, quoi.
Et du coup, avec le no-code, tu peux tout faire ou...
Avec le no-code, franchement, aujourd'hui, et c'est ça qui nous amène un peu à ce podcast et à tout ce projet, c'est que, ouais, on a l'impression qu'on peut tout faire quasiment, quoi. Il y a des plateformes qui sont tellement évoluées, telles que Bubble, que nous, on aime beaucoup, qui te permettent, littéralement de faire Airbnb, de refaire Twitter. Il y a un mec qui a fait un clone de Twitter qui s'appelle Not The Real Twitter, tu peux aller dessus, c'est, truc qu'il a construit vraiment, c'est un espèce de proof of concept, quoi, vraiment juste pour dire on peut faire Twitter avec Google, quoi. Tu peux t'inscrire, tu peux laisser des tweets, tu peux suivre des gens. Et voilà, il a écrit zéro ligne de code. Et voilà, donc il y a une certaine maturité qui fait qu'on se dit qu'on a dépassé même le stade où il y a quelques années, nous, on commençait à suivre ça pour prototyper des idées. L'interface de Bubble, il y a 5-6 ans, était encore un peu buggée, le concept était là, mais bon, quand même, tu l'utilisais, c'était pas hyper ergonomique. Et t'avais pas autant de possibilités de choses que tu pouvais faire. Là, aujourd'hui, ouais, c'est quand même, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Tu peux faire, en fait, il y a des boîtes qui se sont construites autour de Bubble. Comme Zero Code, par exemple, qui est, je pense, un peu la plus emblématique de l'écosystème Bubble, qui fait des templates pour Bubble. Donc, toi, par exemple, admettons, tu veux faire Airbnb, des piscines. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas aller sur Zero Code, tu vas acheter le template Airbnb, qui sont pas appelés Airbnb, évidemment, pas de copyright, de problèmes comme ça, mais qui va te faire un espèce de clone, et que toi, après, tu vas pouvoir adapter, tu vas changer les textes, éventuellement, tu vas mettre d'autres fonctionnalités, tu vas mettre à ta sauce, et voilà, et donc, t'as vraiment... eux, ils l'ont construit comme une application, quoi. Donc, eux, après, c'est des experts de Bubble, ils en connaissent vraiment les moindres secrets, mais... Ils ont réussi à le faire, donc tout le monde peut le faire. L'autre truc aussi, c'est que donc il y a les templates, ça c'est une chose, et puis il y a aussi des plugins qui viennent enrichir l'écosystème de Bubble. Déjà, eux proposent énormément de fonctionnalités. Et puis après, il y a des gens qui développent, là, pour le coup, qui codent des plugins qui permettent aussi d'étendre les fonctionnalités de Bubble, quoi.
Est-ce que comme WordPress, tu peux mettre un peu les mains dedans quand même, si tu veux coder un peu, adapter, tu vois, le template, j'en sais rien, ou autre
Alors, on va dire que c'est pas vraiment dans la philosophie, même si théoriquement c'est possible. Mais l'idée, c'est que tu fasses vraiment tout en passant par l'interface graphique de l'outil, quoi. Ouais.
Okay.
Et pas, non, ouais, enfin, c'est pas le même concept que WordPress, où c'est quand même, WordPress, tu peux aussi ne pas voir du tout de ligne de code, mais quand même une partie des customisations que tu vas pouvoir faire sur ton WordPress, bah, ça va venir. Ça va venir avec le code, quoi. C'est quand même plutôt prévu pour ça. C'est très bien fait d'ailleurs pour ça. Enfin, c'est cool et agréable à programmer, mais par contre, il faut être développeur. Il faut connaître le HTML, le CSS, le PHP.
Oui, c'est ça.
Voilà. Bubble, tu dois pouvoir aller jusque à faire l'équivalent de WordPress sans écrire une ligne de code.
Ok. Et c'est à destination de qui ce genre d'outil?
Bah, c'est assez variable après. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est pour les porteurs de projets, des gens qui ont des idées, qui ont envie un petit peu de maîtriser leur idée, qui ont envie de la tester aussi, avant même de commencer à payer des développeurs. Quand je parle d'idées de projets numériques, hein, enfin d'appli ou de choses comme ça, je pense que ça, pour ça, c'est un super usage. Les gens qui veulent prototyper, tester une idée, on va voir ce que ça donne un peu grandeur nature pour que ce soit vraiment fonctionnel. Pas juste une maquette dessinée avec Invisio ou Marvel, ce qui est un très bon début, ou avec Balsamic, mais voilà l'étape d'après, quoi. On se dit, bon, faire un truc qui soit fonctionnel, et puis après, ça s'adresse aussi aux makers, alors makers dans le sens un peu plus comme ils l'utilisent dans la communauté no-code aux États-Unis, c'est-à-dire les gens qui font des applications. C'est vrai qu'en France, on utilise beaucoup maker plutôt
pour les Fab Labs.
Ouais, voilà, que tu connais bien.
Ouais.
Voilà, donc c'est vrai que alors que aux États-Unis, il y a vraiment sur Product Hunt par exemple, maintenant il y a toute une section dédiée aux makers.
Okay.
Enfin voilà, ça
c'est beaucoup plus large en fait que juste
c'est vraiment les gens qui font des choses. Dans le contexte du no-code, c'est les gens qui font des applications en ligne. Sinon, évidemment, aux États-Unis, ils utilisent aussi Maker pour tout ce qui est DIY, Fab Lab, etc. Quoi.
Ok. Et les process, ils restent les mêmes. Quand tu veux monter un projet, c'est comme quand tu fais un site, quoi. Tu commences, est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans la manière de travailler avec
Non, je pense que c'est un peu la même idée. Je pense que c'est toujours une bonne idée de cadrer un peu son projet, savoir où on va avant de commencer à cliquer un peu partout dans Bubble, quoi. Faire des maquettes ou des wireframes, je pense que c'est une bonne idée. C'est juste que là, on va dire que techniquement, tu peux quasiment dessiner tes maquettes dans Bubble, quoi.
Ouais, t'as pas forcément besoin
boutons, etc. Théoriquement, tu peux le faire directement dedans. C'est question de cadrage, c'est question aussi de voir à quel point ton idée est complexe. Parce que c'est toujours bien de poser un peu les choses. Je cherche un peu ce qui serait différent avec un projet web. Les tests vont être plus faciles ça va être plus facile de tester ton outil parce que il n'y a pas vraiment de problème de bug, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est-à-dire que tu utilises une plateforme qui te fournit des fonctionnalités. Ça peut ne pas faire ce que tu avais prévu parce que tu as mal saisi, les workflows, etc. Mais tu peux pas avoir de bug fonctionnel parce que t'as oublié un point virgule ou t'as mis des mauvaises accolades quelque part.
Comme tu peux avoir dans le code. Tu peux pas faire d'erreur de code.
Ouais, exactement. Donc quand tu testes vraiment fonctionnellement ce que t'as fait, quoi. Donc, c'est la même chose. Hein. Tu peux aussi travailler avec un designer. Tu peux avoir un designer qui te fait des maquettes. Puis toi, tu les implémentes dans Bubble, par exemple. Après, dans les outils no-code, il y en a plein. Là, on en parlait que de Bubble, mais un outil comme Webflow, par exemple, qui est plutôt dédié à faire des sites web ou CMS, là, un designer, quelqu'un, limite, il pourrait faire son design direct dedans, quoi.
Ouais.
Sans passer par l'étape maquette graphique, parce que là, c'est vraiment adapté, quoi. Mais c'est aussi pas si possible dans Webflow, quelqu'un qui maîtrise bien Webflow, on lui donne une maquette, et puis il l'implémente. C'est un peu le même travail qu'avant, les intégrateurs faisaient en HTML, CSS, avant de passer le travail. Donc, non, c'est un peu la même chose, c'est juste que ça va être un peu plus condensé, un peu plus efficace, de mon sentiment.
Mais du coup, tu m'avais parlé d'un truc, c'est Airtable, c'est pour faire des bases de données, ça, non?
Ouais, alors il y a plein d'outils, hein, quand on parle de no-code, c'est vraiment un mouvement qui est assez vaste. Donc il y a Bubble, qui est un peu emblématique parce que c'est une plateforme générique, donc là on peut tout faire, mais il y a aussi des outils beaucoup plus spécialisés. Donc imaginons qu'on veuille développer entre guillemets un CRM, plein d'outils pour faire des CRM, mais si on veut faire un CRM un peu frugal, un peu rapidement, on peut utiliser un outil qui s'appelle Airtable par exemple. Airtable pour moi c'est Google Sheets du futur. Okay. Google Sheets c'était déjà un peu Excel, un peu plus intéressant. Enfin, et puis Airtable c'est l'évolution d'après, du futur ou du présent, quoi, parce que les tableurs pour moi c'est un peu des outils du passé. Mais on est dans un truc où très visuel, tu gères une base de données. Tu peux faire des choses assez complexes, mais par exemple, je sais pas, un truc bête, tu veux mettre une image dans une colonne, tu peux, quoi. Alors j'ai appris assez récemment que tu pouvais aussi le faire dans Google Sheets, mais c'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup moins fait pour quoi. Ouais. En fait, dans Google Sheets, tu vas pouvoir mettre une image en fait en utilisant le lien de l'image et puis en le mettant dans une fonction image. Alors que dans Airtable, tu dis ta colonne, c'est un type image, et puis tu vas pouvoir uploader à chaque fois que tu vas créer une ligne dans ton tableur, et tu vas uploader des images. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'après tu vas avoir des vues, ce que tu n'as pas du tout dans Google Sheets. Par exemple, dans Google Sheets, tu peux faire des graphes, des choses comme ça. Dans Airtable, tu as des vues sur ta table. Donc tu peux créer une vue, par exemple, calendrier. Imaginons que ta base de données, ça soit, la planification d'un événement. Donc chaque ligne, c'est une tâche de ton événement, elle a une date. Et tu vas pouvoir faire une vue calendrier qui te montre tous les éléments. Les dates où ça doit être prêt, quoi. Mais tu peux aussi avoir une vue Kanban, par exemple.
Ok, très bien.
C'est des tâches, encore une fois. Peut-être que c'est pas vraiment les dates qui t'intéressent, mais le statut. Est-ce que la tâche elle est en cours de réalisation? Est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle est à faire? Mais à partir de la même base de données, quoi. Et ces vues, potentiellement, tu peux les rendre publiques, par exemple. Et donc, en fait, ça te fait quasiment un espèce de petit site web, quoi. Je veux dire, très frugal, mais ça peut faire le taf, quoi, dans certains contextes. Et nous, c'est ça un peu l'idée aussi qu'on essaye de proposer, c'est que de se dire, le no-code, ça permet de faire des choses très rapidement, de manière efficace, et qu'on n'a pas toujours besoin, déjà, on n'a pas toujours besoin de programmer des choses, de coder, des usines à gaz, ça, en général, on n'a pas besoin. Mais surtout, on peut aller vite, avant de sortir l'artillerie lourde, même Bubble, avant de faire quelque chose vraiment inhabitant Bubble, peut-être qu'on peut la prototyper de manière un peu plus maligne, juste avec un formulaire qui se déverse dans une base de données et puis une vue sur cette base de données, quoi. Et on peut avoir un process comme ça. Enfin, il y a plein d'histoires dans la communauté de no-code américaine. Il y a même des sites qui recensent ces histoires. Mais il y a des gens qui ont fait... ils avaient une idée d'un truc, d'un service à vendre. Ils ont fait presque 100 000 dollars de chiffre d'affaires avant de commencer à développer quoi que ce soit, juste avec un formulaire de vente qui était fait avec Typeform, il me semble, la vente en elle-même, avec Stripe, qui est vraiment la référence pour tout ce qui est paiement. Ça, c'était automatisé avec Zapier, ça se déversait dans une base de données Airtable, si je dis pas de bêtises. Et puis après, il y avait encore une autre automatisation qui envoyait un mail automatique au client, qui venait d'acheter.
Donc, t'avais vraiment toute la chaîne.
Donc, il avait toute la chaîne, il vendait. Et ce qui est super, c'est que quand ils ont commencé après, quand ils ont vu que le truc prenait bien, commencé à avoir des sous pour payer des développeurs, en fait, quand ils ont commencé à développer, par exemple, le formulaire de vente initial, pendant que les développeurs travaillaient, ils laissaient le formulaire actuel, donc ils continuaient à avoir des ventes. Puis ensuite, ils ont switché, mais le reste de la chaîne était toujours là. Et petit à petit, ils ont remplacé chaque bout, mais ils se sont jamais arrêtés un seul jour de vente, Donc, c'est quand même intéressant. Et ils ont commencé à payer des développeurs que quand leur idée
marchait vraiment bien,
Que c'était validé, l'idée est validée, le concept est validé.
On a les thunes pour payer les gens.
Et on a les thunes, et voilà, donc on prend zéro risque. Donc voilà, j'ai l'impression que ça, c'est une approche intéressante, quoi.
Ouais, je me demandais du coup si c'était facile de passer, bah, comme tu disais, quoi, du côté no-code, bah, d'un coup je veux faire une appli avec des développeurs, des machins. Est-ce que c'est facile de faire cette transition-là ou...
Ah bah franchement, c'est... Enfin, prenons... Enfin, dans tous les cas, je pense que c'est beaucoup plus facile que d'écrire un cahier des charges, quoi.
Ouais.
C'est, voilà, je veux dire, cahier des charges, personne ne sait en écrire. Mm. Les développeurs ne les lisent jamais. Parce que de toute façon, soit c'est mal écrit, même si c'est bien écrit, ça les intéresse pas. Mm. T'as un chef de projet au milieu qui essaye de le lire, qui comprend pas forcément bien. Enfin voilà, le cahier des charges, c'est la cata. Donc quand t'arrives, par contre, avec un prototype fonctionnel, que tu montres à des développeurs, voilà, voilà mon truc, il fonctionne. C'est des briques assemblées, ou alors ça a été construit avec Bubble. Mm. Maintenant on va le développer. Bah, ils ont quelque chose sur lequel s'appuyer qui est tangible, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment tester les choses, même si c'est pas, tout ne fonctionne pas parfaitement, etc. Mais ouais, ça n'empêche pas, après, à côté, de faire des user stories, de faire, voilà, de cadrer un petit peu le projet, avec un chef de projet. Mais au moins, les devs, ils ont un truc sur quoi s'appuyer, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est carrément efficace. Et puis, j'ajouterais que le porteur de projet, comme il a construit lui-même son produit, en plus, il a une meilleure compréhension, de la technique, de ce qui peut être facile, pas facile, même s'il connaît pas du tout le code.
Non, mais de lien entre les chaînes, du coup, de voilà, qu'est-ce qu'il communique avec quoi.
Exactement, il comprend, il a peut-être un peu compris ce que c'est une API, il a peut-être un peu compris, bah, déjà, il sait comment fonctionne Stripe, par exemple, pour le paiement, enfin, quelles sont les différentes offres, les choses. Donc, ouais, à mon avis, il va pouvoir aussi parler avec les développeurs dans des meilleures conditions, quoi. À mon avis, tout le monde est content, quoi.
Oui, c'est ça.
Enfin, moi, je pense sincèrement, au-delà du fait qu'à la base, je suis quand même développeur, je pense que le but, c'est pas du tout de dire le no-code, c'est la fin du code.
Ouais.
C'est une autre manière de voir les choses, plutôt en amont, à mon avis, pour faire des choses frugales, pour tenter des petits projets, valider des hypothèses. Voilà,
sans vraiment... avoir à lâcher 15 000 balles pour un développeur,
exactement.
Pour un truc que tu sais pas si ça va marcher ou pas.
Exactement. Surtout que, voilà, on est bien placé pour savoir que dans les développeurs, dans les agences, pas les développeurs, mais plutôt dans les agences qui existent, il y a aussi beaucoup de gens qui font des prix un peu prohibitifs, qui abusent du fait que les gens ne connaissent pas la technique. Donc, voilà. Donc, de toute façon, effectivement, le développement, ça coûte cher, c'est normal, c'est des métiers qui sont compliqués. Mais, voilà, je pense qu'on est plus serein quand on maîtrise déjà un petit peu son produit. Mmh. On peut mieux parler, à mon avis, avec des agences, un peu faire trier.
Surtout si on a compris la chaîne et le process, quoi.
Bah
comment
ouais.
On sait qu'on se fait pas avoir.
Exactement. Je veux dire, on va pouvoir parler avec les gens et ils vont pas essayer de nous dire, ah ben non, ça c'est hyper compliqué, c'est hyper cher. Ouais, non, franchement, moi j'ai vu quand même des choses où je trouve qu'il y avait des gens qui étaient pas très réglo. Qui ont fait payer cher des choses qui n'étaient pas forcément, voilà, parce qu'en face d'eux, ils avaient
des gens qui connaissaient pas trop, quoi.
Qui connaissaient pas, quoi.
Ça remet un peu sur un pied d'égalité.
Ouais. Moi, je pense que, et ça, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que moi, je sais quand même qu'en tant que développeur et responsable d'une agence, bah, c'est difficile de travailler avec des gens qui comprennent rien à la technique. Mmh. C'est difficile les gens viennent, ils ont des idées, sont bonnes ou pas bonnes, ça, à la limite, c'est même pas la question. Mmh. Mais ils les ont pas testés, enfin.
Oui, et puis ils savent même pas comment ça marche.
Ils savent pas, ils comprennent pas la difficulté, donc on se retrouve à avoir des dialogues des fois un peu compliqués. Des fois ils pensent que quelque chose est très simple, alors que nous on leur dit c'est compliqué. Voilà, donc je pense que ça, il y a tout intérêt, voilà, à faire ça. Mais voilà, par contre vraiment tôt ou tard, même si Bubble par exemple, ils ont des clients, voilà, qui ont des sites en production, enfin voilà, des applis qui ont quand même une charge importante. Moi, je pense que voilà, c'est bien aussi quand même de travailler avec des développeurs, travailler avec des agences, des gens dont c'est le métier. Quand on commence à avoir des applis qui fonctionnent bien, on commence à avoir des sites, enfin voilà, c'est très...
Mais c'est plus une nouvelle étape de ce que...
Exactement, on passe au
next level. C'est que tu as le dessin, après tu marvel, et éventuellement tu testes sur avec un truc en no-code, et après tu passes à du dev.
Exactement.
Si t'as besoin, quoi. Ça rajoute juste un chaînon en fait de test.
Ouais, un chaînon qui sécurise tout le monde,
c'est ça, quoi.
Qui fait que quand tu vas commencer le dev, tu sauras exactement ce que tu veux développer. Parce que le problème aussi, au-delà de la partie technique, c'est la partie fonctionnelle. Les gens, ils veulent tout le temps des usines à gaz, en fait. Et c'est normal.
Alors, en fait, ils ont besoin d'un bouton, d'un truc pour envoyer une adresse mail.
Exactement. Et voilà, au moins, s'ils l'ont testé déjà en no-code, s'ils ont l'idée de 5-6 fonctionnalités à la base, en no-code, ils en testent 2-3, ils savent que celle-là, c'est les bonnes, ben, ils peuvent commencer à développer celle-là. Puis s'ils veulent en tester une quatrième, comme ça, au cas où, ils la testent vite fait en no-code, elle est validée, hop, on se développe. Si elle n'est pas validée, elle dégage. Et à mon avis, quand même, dans 80% des cas, on se rend compte que les idées qu'on a, c'est pas les bonnes, où il n'y a pas besoin. Ouais. Donc, cette approche, c'est vraiment l'approche Lean Startup, c'est vraiment le côté... il faut un produit minimum à la base qui n'a que les trucs vitaux. Et ça, quand on ne sait pas comment le toujours le trouver, donc il faut un test par itération. Mais ouais, il faut le minimum, quoi.
Et du coup, dans le contournement, c'est pas juste apprendre des outils. Alors, l'idée, ce serait aussi d'apprendre cet état d'esprit un peu ou...
Alors, dans la formation, on a prévu, on a imaginé différents formats de formation. L'idée, c'est d'acquérir aussi ce côté, nous on appelle ça à cœur de projet, c'est une formation que Carwan fait depuis longtemps. C'est vraiment ce côté, on a une idée, on trouve le moyen le plus direct de la faire, on contourne les obstacles techniques. Voilà, la manière de faire, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est une manière. Il y a plusieurs manières de faire tout. Donc, l'idée c'est d'acquérir un peu cette approche, un peu frugale, itérative, un peu intelligente, tester, valider ses idées, ses hypothèses, et ensuite apprendre aux gens à implémenter tout ça, implémenter. C'est quand même une grosse partie de toutes nos formations. Suivant les modules, c'est plus ou moins important. C'est l'idée, c'est avoir l'état d'esprit un peu du hacker au sens un peu noble. Trouver des moyens. C'est-à-dire qu'on ne se laisse jamais limiter par quoi que ce soit. Il y a toujours un moyen de contourner l'obstacle. Et voilà. Et par contre, on ne construit pas des usines à gaz, on construit des choses un peu.
Qui sont fonctionnelles, quoi.
Qui sont fonctionnelles, qui sont cohérentes. Et puis, où il y a un marché aussi derrière, quoi. Et pour savoir ça, on apprend aussi un peu. Dans la formation, il y a du gros hacking. Acquérir ses premiers clients, ses premiers utilisateurs. Parce que c'est ça aussi, on peut avoir une super idée si personne n'est au courant.
Ça sert à rien.
Donc,
on la vend mal aussi.
Exactement, c'est un tout, parce qu'il y a des gens qui ont des super idées, qui n'arrivent pas à trouver leur premier client, du coup ils se disent que leur idée n'est pas la bonne, alors qu'ils ont, même s'ils ont parfaitement implémenté leur idée. Et inversement, il y a des gens qui ont implémenté quelque chose qui ne correspond pas à un besoin, ils arrivent à faire connaître leurs besoins, mais par exemple les gens ne payent pas, et ils pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas les bons clients. Ils ont les bons clients, mais c'est pas la bonne implémentation, c'est pas la bonne idée, la bonne manière de vendre le service. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans l'histoire de l'Internet, des gens qui ont commencé à faire un produit. Flickr, par exemple, qui est une plateforme d'image. À la base, la boîte faisait un jeu en ligne. Mais c'est la fonctionnalité d'upload de photos, en fait, qui a pris le pas sur tout le reste, quoi. Parce que c'est ça qui intéressait les gens.
Ils ont changé
complètement. Et donc après, ils ont abandonné le jeu, il marchait pas du tout. Par contre, les photos, ça marchait bien, ils ont pivoté là-dessus. Et puis c'est devenu une très grosse plateforme. Donc maintenant, un peu retombé d'ailleurs, ça n'est plus au sommet de sa gloire, il y a pas mal de choses.
C'est de l'agilité, quoi.
Être agile dans son approche, pivoter au bon moment. Ça veut pas dire pivoter non plus toutes les deux secondes, mais pivoter pour les bonnes raisons, quoi. Mais pour ça, il faut savoir valider ses hypothèses, en fait. Pour savoir valider ses hypothèses, il faut savoir les implémenter techniquement. Voilà. C'est un peu... des fois, ça peut être un peu l'œuf et la poule, mais globalement, c'est un cercle comme ça.
Oui, c'est ça.
Plutôt vertueux quand on maîtrise un peu tous les aspects, quoi.
Ok.
Bon, c'est pas mal, on a fait
un bon
petit tour de raison, on a parlé du no-code, on a parlé un peu de la formation.
C'est ça.
Écoute, on s'arrête là pour aujourd'hui,
c'est
le premier épisode. Écoute, merci beaucoup pour tes questions.
Merci à toi pour tes réponses.
À bientôt.
Carrément, salut.